et ça pourrait interpeller la demoiselle. Alors on va prier pour débuter. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Encore Seigneur, c'est un privilège de pouvoir nous approcher de toi en sachant non seulement que tu avais préparé ce moment de toute éternité, mais en sachant aussi Seigneur que tu nous accueilles dans ta présence. Un privilège Seigneur qu'on ne pourrait quantifier. Un privilège Seigneur qu'on ne pourra jamais égaler par quelques remerciements ou gratitude qu'on pourrait avoir. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir nous réunir malgré la distance et plonger nos regards dans ta parole. Alors nous prions Seigneur que ce matin tu nous instruises, tu nous parles, que ces paroles Seigneur n'émanent pas de la sagesse, de la réflexion ou de l'expérience stricte d'un homme, mais que ça émane Seigneur directement de ton trône de grâce. Nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes et nous avons besoin de toi. Alors ce matin, parle-nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui se sont joints à moi ce matin. Mais bénis aussi tous ceux, Seigneur, et toutes celles qui se connecteront au long de la journée ou même plus tard dans le temps. Que la même onction que tu libères sur nous ce matin, que tu puisses aussi la libérer et la répandre sur toute personne qui écoutera ce message. Donc merci de nous aimer, merci de prendre soin de nous et merci de nous accueillir ce matin. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue dans ce temps d'étude bref, mais qu'on veut bénissant pour chacun d'entre nous. Et cette semaine, on étudie dans le livre de Psaumes, le chapitre 118 et les quatre premiers versets. On a déjà eu l'occasion, à travers les deux dernières journées, d'étudier les deux premiers versets. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours consulter sur la page Facebook ou sur la page Internet de l'Église. Les enseignements y sont. Donc, on vous invite à tout simplement vous mettre à jour si vous n'étiez pas là à travers les dernières journées. Aujourd'hui, c'est le verset 3 que nous étudions, mais on va quand même lire les quatre versets. Puis, je reprendrai une ou deux fois le verset 3, simplement pour le laisser s'imprégner en nous. Alors, Psaume 118, le verset 1, nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Qu'Israël dise « Car sa miséricorde dure à toujours. » Que la maison d'Aaron dise « Car sa miséricorde dure à toujours. » Que ceux qui craignent l'Éternel disent « Car sa miséricorde dure à toujours. » Et le verset 3, je le répète une ou deux fois. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, je vais agrandir un peu mon écran. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, c'est le facteur qui vient de passer et je m'en excuse. Terme important ce matin, encore une fois, miséricorde et toujours. On indique que puisque ça revenait sur trois ou quatre versets, on allait prendre le temps à chaque jour d'avoir une nouvelle notion. Hier, on a parlé de la bonté de Dieu quant au terme « chesed ». Et aujourd'hui, toujours dans Miséricorde Chesed, C-H-E-C-E-D, on va parler de la grâce, et cette grâce qui est éternelle. Et on va voir l'éternité sous un autre angle ce matin, spécifiquement quant à la grâce de Dieu. Donc, miséricorde, bonté, donc toutes ces choses que Dieu nous donnait comme bienfait hier, et aujourd'hui, chesed, quand vous le traduisez en français dans plusieurs versets de l'Ancien Testament, le terme qui va être utilisé, c'est le terme grâce. Et la grâce de Dieu est merveilleuse. Cette grâce, c'est quoi? Cette grâce, c'est en fait que le pécheur coupable, condamné, condamnable, et justement condamné, peut malgré tout sortir de la culpabilité, de la condamnation qui est placée sur sa vie en raison de son péché, et sortir saint, purifié, sanctifié et sauvé pour l'éternité. La grâce de Dieu n'est pas au mérite. La grâce de Dieu, telle que son nom l'explique déjà, la grâce est un cadeau immérité que nous recevons de la part de Dieu. Et une des choses qui est importante lorsqu'on dit que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours ou car sa grâce dure à toujours, toujours éternelle veut dire qu'elle a toujours existé. La grâce de Dieu n'est pas venue à l'existence avec le péché initial d'Adam et Ève. La grâce de Dieu existait déjà avant. Elle n'avait pas servi, elle n'avait pas été utilisée, mais cette grâce existait déjà avant. Parce que cette grâce est manifestée physiquement en la personne de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Et la Bible nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ça veut donc dire que Christ existait même avant que l'homme ne soit créé. Donc avant que l'homme n'ait besoin de la grâce de Dieu, Dieu avait déjà dans son plan éternel pourvu à la grâce pour vous et pour moi. Alors c'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime tellement, Dieu nous a toujours tellement aimés, qu'avant même que nous n'existions et nous ne lui tournions le dos, il avait déjà prévu un moyen de nous racheter, un moyen de nous sauver et un moyen de nous offrir une rédemption. Alors la grâce de Dieu a toujours été là. Mais de surcroît à cela, la grâce de Dieu, puisqu'elle est éternelle, elle a aussi une portée tout aussi éternelle. Ça veut donc dire que je ne peux pas arriver au terme de la grâce de Dieu. Je ne peux pas arriver à épuiser cette grâce ou les ressources qui viennent avec cette grâce. Ça veut dire que Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé, que pour toute l'éternité, il a pourvu la dose de grâce qui était nécessaire et adéquate. Et lorsqu'on parle que la portée de la grâce est éternelle, ça veut dire que cette grâce qui m'est accordée, ce statut de gracié qui m'est accordé, va avoir une portée qui va durer et perdurer pendant toute l'éternité. Parfois, on fait des marchandages, parfois, on signe des pactes, et les pactes sont arrêtés pour un temps. On fait des pactes de non-agression entre deux pays, on fait un cessez-le-feu qui a cours pendant X nombre de jours, voire X nombre de semaines ou X nombre de mois. Le pacte de paix, le pacte de rédemption qui a été signé par Jésus est un pacte éternel. Il a une valeur, il a une portée, il a une puissance et une durée éternelle. Ça veut donc dire que Dieu n'a jamais rien laissé au hasard. Oui, il savait que l'homme allait pécher, et oui, il savait que l'homme aurait besoin d'un sauveur, et Dieu avait pourvu le maximum de ce qui était nécessaire, et ce maximum est encore effectif aujourd'hui. Certains vont dire que la Bible est une vieille histoire qui date de 2000 ans. En partant, ça date de plus que ça, puisque elle relate les faits depuis l'existence première de l'homme et même avant cette existence. Elle nous parle de Dieu lors de la création et tout cela, et du Dieu éternel. Donc no, notre Bible, notre parole que nous avons entre les mains ce matin a une portée, a une efficacité qui dure jusque dans l'éternité pour toi et pour moi, pour tous ceux qui la prennent effectivement comme parole de Dieu. Donc la grâce de Dieu qui demeure toujours, qui dure toujours, donc une grâce qui a toujours été là, Parce que Dieu, avant même qu'on ne soit, avait déjà prévu comment nous racheter. Et de surcroît à cela, il nous a rachetés d'une manière où chacun d'entre nous qui acceptons Christ, qui venons à Christ et qui faisons nôtre le salut qu'il veut nous accorder, reçoit une grâce, reçoit la grâce pour ses péchés qui dure jusque dans l'éternité. Et nous savons tous que l'éternité n'a pas de fin. Donc la grâce de Dieu est merveilleuse. Je pense que c'est bon à l'occasion, voire même très régulièrement, de se rappeler de ces faits, de se rappeler comment Dieu nous a aimés et comment son sacrifice et son don parfait étaient effectivement excellents et éternels pour nous tous. Revenons maintenant au début du verset. Que la maison d'Aaron dise. Hier, on a vu qu'on ne peut pas dire sans savoir. Donc, une notion en deux morceaux. Donc, la maison d'Aaron doit non seulement savoir, mais la maison d'Aaron doit aussi proclamer que la grâce de Dieu dure à toujours. Fait intéressant, qui est Aaron? Aaron, c'est le frère de Moïse qui est probablement lors de la sortie d'Égypte et lors d'une bonne partie du voyage ou de l'errance dans le désert pendant 40 ans, c'est probablement le bras droit le plus précieux que Moïse va avoir. Oui, il va être succédé par Moïse va être succédé par Josué, mais pendant tout son ministère, durant sa vie, Moïse va pouvoir compter sur les services de son frère Aaron. Donc Aaron est un leader. Et on dit à la maison de ce leader, qui inclut Aaron, de dire « car la miséricorde de Dieu dure toujours ». Alors c'est un appel à mes yeux à l'humilité du leader qui était Aaron. Vous savez, Aaron va être placé comme étant le souverain sacrificateur, le premier souverain sacrificateur de l'histoire d'Israël. Il va être un peu le chef de tout ce qui est culte, de tout ce qui est intimité avec Dieu, de tout ce qui est se présenter devant Dieu. C'est Aaron qui va personnifier ça pour le peuple d'Israël. Il est un fils de la famille de Lévi. Donc tous ses descendants vont par la suite être appelés aussi à être des sacrificateurs et des Lévites. Et on pourrait se dire, mais Aaron a tellement d'expérience dans la présence de Dieu, a tellement d'expérience avec le Seigneur, qu'il pourrait en devenir un peu blasé. Et de surcroît à être blasé, si on prend notre cas personnel et la façon dont plusieurs d'entre nous ont réagi très régulièrement, on pourrait aussi oublier d'où le Seigneur nous a tirés. Donc ici, on dit que la maison d'Aaron dise « car la grâce, car la miséricorde de Dieu dure à toujours ». Donc Aaron devait avoir l'humilité nécessaire pour se rappeler que bien qu'il était le souverain sacrificateur, bien qu'il était chef de la famille des Lévites, il était lui aussi un gracié, qu'il bénéficiait, qu'il était un tributaire, qu'il était en nécessité de la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es rendu avec le Seigneur, combien d'années tu as, ou combien de mois, ou combien de jours tu as à fréquenter le Seigneur et à vivre en ayant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais une des choses qu'on oublie régulièrement, c'est qu'effectivement, Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Aaron était appelé à se rappeler qu'il était un gracié. Et c'est bon pour toi et c'est bon pour moi. Peu importe où tu en es rendu, peu importe les expériences que Dieu t'a permis d'acquérir tout au long des années où tu as marché avec Dieu, peu importe même des hauts faits, des prodiges et des miracles qui pourraient s'être passés à travers toi, peu importe les paroles de connaissance, de sagesse, des paroles de prophétie que Dieu aurait pu prononcer à travers toi. Peu importe les miracles et les prodiges et les guérisons, les délivrances qui se seraient manifestées à travers toi, tu ne dois pas oublier et je ne dois pas oublier que je suis un gracié, que tu es un ou une gracié devant Dieu. Durant l'éternité tout entière, tu seras encore un pécheur qui a été gracié ou une pécheresse qui a été graciée. Et ici, c'était important que Aaron s'en rappelle. Malheureusement, très souvent, lorsqu'on commence à avoir certaines expériences avec Dieu, on dirait que les choses nous sont dues. On dirait qu'à un moment donné, on pense que effectivement Dieu doit nous utiliser, qu'effectivement Dieu doit intervenir à travers nous pour parler, intervenir à travers nous pour se manifester, intervenir à travers nous pour guérir. Dieu veut le faire, mais Dieu n'est pas obligé. À un moment donné, Jésus est dans le temple, c'était un des passages qu'on voyait la semaine dernière, et les enfants commençaient à crier « Adonai, Adonai, Adonai », comme quoi il était le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et les religieux de l'époque vont lui dire « Mais est-ce que tu entends ce qu'ils sont en train de dire ?» Et Jésus va dire « Mais il est écrit que si ceux à la mamelle ne le font pas, les pierres même vont se mettre à crier ainsi. » Donc Dieu n'a pas besoin de toi ni de moi pour faire avancer son évangile. Mais Dieu te veut à toi et Dieu me veut à moi pour faire avancer son évangile. Dieu n'a pas besoin de ta reconnaissance, mais il la veut. Dieu n'a pas besoin de toi pour accomplir quelque chose, mais il lui fait plaisir de t'utiliser. Dieu ne te doit rien. Son salut est une grâce. Son salut, c'est parce qu'il t'aime, pas parce que tu le mérites. Sa grâce, c'est parce qu'il t'aime, pas parce que tu la mérites. Son utilisation qu'il fait de toi, même dans des secteurs prestigieux, en ouvrant des postes ou des positions que l'homme ne peut pas comprendre et que Dieu t'y amène et t'y fait accéder. Mais tout cela n'est que grâce. Et il était important qu'Aaron puisse aussi se rappeler que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il peut inspirer n'est qu'une grâce de la part de Dieu. Alors toi aussi et moi aussi, nous devons revenir à cette position d'humilité et de nous rappeler et de proclamer et de faire comprendre aux autres que tout ce que je suis en fait, c'est simplement la grâce. Il y a des gens qui ont une fausse humilité. Ils ont cette humilité apparente, mais le cœur lui-même est enorgueilli. Dans notre vie, Dieu nous regarde non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et ce à travers quoi on peut tromper les hommes avec une humilité que les hommes peuvent croire comme tout à fait honnête, sincère et réelle, Dieu sait parfaitement si cette honnêteté n'est qu'une chose de façade, mais que le fond du cœur est rongé par un orgueil et par une fierté malsaine. Donc, pour toi, pour moi, ayons l'humilité propre à un leader qui se sait toujours et éternellement un gracié. De surcroît à cela, on dit que la maison d'Aaron, la maison parle de la maisonnée, donc de la famille d'Aaron. La maison, c'est le terme « biit » qu'on a déjà étudié il y a quelques semaines lorsqu'on parlait de la maison de Dieu, qui veut dire non seulement l'édifice, mais qui parle aussi de la maisonnée, de ceux qui sont à l'intérieur de l'édifice, de ceux qui sont associés avec cet édifice, de ceux qui habitent l'édifice. Donc ici, on parle de la maison d'Aaron, la famille d'Aaron. Une famille qui a connu les hauts faits de leur père, une famille qui a une place spécifique et particulière dans le peuple d'Israël. Sur les 12 tribus, il y en a une seule qui est appelée au service de l'Éternel à temps plein, et c'est la famille de Lévi, la famille donc d'Aaron, les descendants d'Aaron. Et parfois, et je parle par expérience parce que je suis moi-même le fils d'un serviteur de Dieu. Mais là, on peut étendre ça à tous ceux qui sont nés dans l'Église, à tous ceux qui ont grandi dans l'Église, et même à tous ceux qui passent du temps depuis longtemps dans la maison de Dieu. À un moment donné, on perd le focus. On vient à l'Église parce qu'on est toujours venu à l'Église. On a une relation avec Dieu qui est, avec le temps, devenue banale. Il y a l'expression très européenne qu'on parle de « morlaf », Donc une relation avec Dieu qui est comment on pourrait dire? Oui, c'est banal, qui est sans émotion, qui est fade, qui est moche, qui est tout simplement une habitude ennuyeuse et ennuyante. Notre vie avec Dieu ne devrait jamais être comme ça. Mais soyons honnêtes, parfois l'habitude vient à prendre position dans notre relation avec Dieu, et cette habitude n'est pas nécessairement toujours une bonne chose. On dit que une des choses qui frappe souvent les familles et les couples particulièrement, c'est le fait que l'habitude se crée. Et parfois, des bonnes habitudes, c'est une bonne chose. Mais parfois, lorsqu'on parle d'habitude du côté péjoratif ou négatif, on parle de ce train-train habituel. On sait que, bon, lundi, on mange du pâté chinois. Puis mardi, on mange des spaghettis. Puis mercredi, on mange du poulet qui a été rôti. Puis jeudi. Et on peut calculer exactement ce qu'on fait constamment. Puis il n'y a pas ce renouveau. D'entrain, ce renouveau de la passion au niveau de la famille ou au niveau du couple. Et c'est la même chose avec Dieu. Est-ce que ça se pourrait que je sois rentré dans une vie spirituelle qui soit devenue tout simplement une routine, un train-train ennuyeux, ennuyant et peu fertile ou peu propice à l'intervention de Dieu et à l'action même de l'Esprit de Dieu. Donc on était en train de dire aux enfants d'Israël qu'ils avaient aussi, les enfants de Aaron plutôt, qu'ils avaient eux aussi besoin de cette grâce. Tu n'es pas sauvé parce que papa est sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que papa prêche. Tu n'es pas sauvé parce que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre fréquente l'église. Tu ne peux être sauvé que dans ta relation personnelle avec Dieu. Voilà le danger de l'Église traditionnelle qui va baptiser les enfants, en conférant lors de ce baptême des enfants un statut de sauvé, de membre de la famille de Dieu à cet enfant. En partant, c'est pas biblique. En partant, on ne voit pas de baptême d'enfants dans la Bible. La seule chose qu'on voit, c'est qu'à l'âge de 8 jours, dans le peuple d'Israël, il y avait comme coutume et comme un précepte d'aller présenter un enfant au temple. Mais on le présentait à qui? On le présentait à l'Éternel, mais on le présentait surtout à la famille d'Israël. On présentait cet enfant surtout à l'ensemble des constituants de la famille d'Israël pour qu'ils sachent que nous avons un nouveau membre dans la famille duquel nous devrons prendre soin. Mais ce n'était pas une question de salut, c'était une question de prise de connaissance par rapport à cet enfant et demander pour cet enfant une protection et qu'un jour lui aussi soit amené à prendre une décision à l'égard de Dieu. Le baptême, lorsqu'on regarde tout ce qui en est dit dans le Nouveau Testament, le baptême se fait à travers un homme, une femme, qui a compris son statut de péché, de pécheur, qui a compris son besoin d'un sauveur et qui demande repentance ou qui affiche une repentance et qui demande pardon à Dieu et qui reçoit le pardon de ses péchés à travers la mort de Jésus à la croix. Mais ça prend une reconnaissance de son statut de pécheur et ça prend une reconnaissance de son statut éventuel de gracié. Le baptême, c'est un engagement que l'on prend à couper avec le passé, à couper avec notre vie de péché d'hier et à consacrer le restant de notre existence de façon publique, cette consacration. Voilà pourquoi le baptême est un acte public. Cet acte-là est une décision que je prends de suivre Jésus pour le restant de mon existence. Et c'est là où l'Église traditionnelle fait une grave erreur et amène plusieurs à croire que parce qu'ils ont été baptisés étant petits, ils sont sauvés et membres du peuple de Dieu. Nous ne pouvons être sauvés qu'en reconnaissant notre péché, en recevant Christ et la grâce qu'il nous a accordée. Alors la maison d'Aaron devait savoir qu'elle avait besoin elle aussi de la grâce de Dieu. Peu importe qui sont tes parents, peu importe quelles sont leurs pratiques spirituelles, ça n'a pas d'incidence sur ton salut. Ça a une incidence sur ta connaissance de Dieu, sur ta facilité ou non à t'approcher de Dieu, mais ça ne te confère pas un statut de sauvé, un statut de gracié. La seule personne qui peut te sauver, la seule personne qui peut te gracier, c'est Christ, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Donc un appel non seulement à l'humilité de la part du leader qui était Aaron, mais aussi un appel à l'humilité et au réalisme de l'ensemble des descendants d'Aaron qui devaient se dire, ce n'est pas parce que papa, grand-papa ou arrière-grand-papa Aaron était sauvé que je le suis moi aussi. J'ai ma connexion à faire avec Dieu et j'ai mon besoin d'une grâce comme Aaron en avait besoin, moi aussi. J'en ai besoin. Et toutes les générations qui vont venir après nous, peu importe le nombre de générations qui viennent après nous, elles auront chacune d'entre elles besoin de connaître de façon personnelle la grâce de Dieu. Donc que la maison d'Aaron sache qu'ils ont besoin, en tant que membres de cette famille, aussi de la grâce de Dieu. Et que chacun et chacune des descendantes et des descendants de la maison d'Aaron, sache qu'ils ont tous et chacun besoin de cette même grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser peut-être s'il y a un fils de pasteur, une fille de pasteur, un membre d'une famille d'ouvriers dans le service de Dieu. J'aimerais être très très clair avec toi. Ce que papa fait, ce que maman fait, ce que ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine font pour Dieu n'a pas d'incidence sur ton salut. La seule personne qui peut accéder au salut, c'est toi, de façon privée et personnelle, avec Jésus. Donc oui, je te dis, tu n'es pas sauvé parce que papa était prédicateur. Tu n'es pas sauvé parce que maman travaille dans l'église. Au même titre où tu n'es pas sauvé parce que tu travailles dans l'église. Tu n'es pas sauvé parce que tu pourrais peut-être enseigner à l'école du dimanche. Tu n'es pas sauvé parce que peut-être tu pourrais diriger les chants. Tu es sauvé si tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur et si tu reçois de ce sauveur la grâce éternelle qu'il a donnée. Alors je prie que ce soit clair pour toi. De toute manière, en ayant entendu les paroles de ce matin, tu ne pourras plus jamais dire pour le restant de l'éternité que tu ne savais pas. Le salut est une chose très personnelle avec Dieu. Oui, il place des gens autour de nous, parfois des parents, parfois des frères, parfois des sœurs, parfois des amis, pour nous enseigner, pour nous mettre en connaissance avec la grâce de Dieu, un peu comme je le fais avec vous ce matin. Mais la décision et la réponse, personne d'autre que toi ne peut la donner. C'est toi qui réponds à la grâce de Dieu. C'est toi qui réponds oui ou non à ce désir que Dieu a de te voir sauvé. Tu peux accepter ce salut, tu peux le refuser. Tu peux continuer à vivre ton existence en tant que maître de ta propre vie et passer à court du salut de Dieu, passer outre la vie éternelle, où tu peux effectivement comprendre que tu es pécheur et pécheresse, que tu as besoin d'un sauveur, reconnaître ton statut de pécheur et reconnaître ton besoin d'être gracié par Dieu et recevoir cette grâce et vivre pour le restant de ton existence sous la houle et sous la juridiction de Dieu. Dernier point que j'aimerais mentionner ce matin, très court. Famille d'Aaron, la maison d'Aaron. Aaron, le nom propre Aaron, veut dire celui qui amène la lumière. Celui qui amène la lumière. C'est quand même intéressant que la famille qui porte le nom de ceux qui amènent la lumière puisse aussi savoir et proclamer que la grâce de Dieu dure à toujours. Nous sommes un peu des Aarons dans cette génération-ci qui amenons la lumière. Nous sommes parmi les ténèbres. Jésus nous a envoyés parmi les ténèbres afin d'être une lumière dans les ténèbres. Et cette lumière, est fonctionnelle et active lorsque nous proclamons la grâce et le salut à travers la mort de Jésus. Donc, je prie que toi, ce matin, premièrement, que tu aies compris ton besoin d'une grâce. Deuxièmement, que tu aies utilisé et reçu cette grâce de la part de Dieu, que tu ne la méprises pas, qu'elle ne tombe jamais dans l'habitude, dans le train-train, mais que cette grâce vienne t'emballer à chaque jour quand tu y penses et quand Dieu le ramène à ta pensée. Mais de surcroît à cela, que tu sois aussi un agent de lumière, un agent qui amène la lumière dans ce monde de ténèbres, comme Dieu t'a appelé à le faire. La Bible nous dit que nous sommes maintenant une race de sacrificateurs. Donc nous sommes des Lévites. Nous sommes maintenant des descendants d'Aaron au service de l'Éternel. Donc je prie que dans ton service, tu amènes effectivement beaucoup de lumière dans ces ténèbres opaques qui nous environnent actuellement. Alors on va prier pour terminer ce matin. Seigneur, nous ne pouvons passer outre le fait de te remercier et d'être reconnaissant pour la grâce que tu as manifestée envers nous. Seigneur, parfois à cause du temps, on sombre de façon très illogique. On n'a même pas de raison de le faire, mais on le fait malgré tout. On sombre dans les habitudes, dans le train-train. Et parfois des choses exceptionnelles finissent par nous apparaître banales, normales, voire même dues. Aucun d'entre nous ne mérite ta grâce. À aucun d'entre nous, la grâce n'est due. Elle nous est accordée simplement parce que tu nous aimes et parce que tu voulais nous avoir avec toi pour l'éternité. Alors je prie, Seigneur, pour ceux qui sont à l'écoute ce matin, qui ont connu et expérimenté ta grâce, mais qui ont encore besoin d'être ramenés à la raison. Comme quoi cette grâce, Seigneur, ils n'ont rien fait pour l'obtenir. Ils ne pouvaient rien faire pour l'obtenir. Or, je prie, Seigneur, que la notion de la grâce vienne nous illuminer aujourd'hui. Nous garder dans l'humilité, nous garder dans la simplicité et nous garder dans la reconnaissance. Mais nous amener aussi, Seigneur, dans le service. Quand on a été tellement imbibé de cette grâce, lorsqu'on a compris toute la portée merveilleuse de cette grâce, pouvons-nous vraiment avoir une autre réponse que de te servir, que d'être à ton service pour l'éternité? Seigneur, faire autrement serait être ingrat. Faire autrement que de te confier notre vie et de la mettre à ton service serait, Seigneur, être ingrat de notre part. Alors je prie, Seigneur, pour moi-même, mais aussi pour ma sœur, pour mon frère, pour l'ensemble, Seigneur, de notre fratrie, de notre famille chrétienne. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes avec cette pensée profonde, réelle et vivante, que nous sommes des graciés. Et que tu nous amènes, Seigneur, à l'instar d'Aaron, à amener la lumière autour de nous. Aaron qui voulait dire qui propage ou qui amène la lumière. Dans cette génération-ci de ténèbres, dans cette génération-ci de gens qui sont aveugles, permets-nous, Seigneur, d'amener la lumière en prêchant l'Évangile, en prêchant ce Sauveur merveilleux que tu es et en disant à tous et à chacun qu'ils peuvent, oui, expérimenter pour eux-mêmes et qu'ils doivent expérimenter pour eux-mêmes la grâce qui vient à travers la mort et la résurrection du Sauveur. Alors, Seigneur, utilise-nous aujourd'hui pour témoigner de toi. Utilise-nous, Seigneur, pour parler de toi. Utilise-nous, Seigneur, pour être des lampes pour toi dans ce monde de ténèbres. Bénis ma sœur et bénis mon frère ce matin. Que ta grâce nous accompagne. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi simplement saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous ce matin, depuis tout à l'heure. Laissez-moi remonter un peu dans mon agenda. Donc, on avait salué la sœur Teresa et la sœur Dora tout à l'heure. Donc, bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à Didier, à Ramon, à Melida, à Walter Vinicio. Bonjour à Suze, à Jimmy. Bonjour à la sœur Manon, l'épouse du pasteur André. Bien le bonjour au pasteur André aussi. Bonjour à Diana. Bonjour à Lynn. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Evelyne. Bonjour à Eric. À Yolène. Bonjour à Angel Velasquez. Bonjour à la sœur Samek. Bonjour à Camille. Bonjour à Gabriel. Bonjour à qui d'autre? À la sœur Jocelyne, au frère Jacques. Bonjour à Tina et à Christophe et aux enfants. Et je pense, bonjour à Sylvia. Je crois que c'est tout. Et bonjour à Louise et à Michel. Donc j'espère que vous avez été bénis ce matin. Que la maison d'Aaron, que vous et moi, en tant que Lévites dans la maison de Dieu, nous puissions savoir et dire, car sa miséricorde, car sa grâce dure à toujours. Alors sur ce, on vous rappelle ce soir, étude biblique avec le pasteur Sergio à 19h, heure de Montréal. Et pour nous, on se retrouve donc demain, jeudi 8 octobre, pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et soyez des témoins de la grâce de Dieu. Soyez des porte-voix de la grâce de Dieu. Bonne journée à tous.